travail au cachet oriental. J'ai réussi totalement ce qui
est possible. Moi, c'est Pélin de au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, peut-être de mes précisions, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Corneille Nangaa, poursuit depuis mercredi 6 janvier dernier ses consultations avec les confessions religieuses pour obtenir un consensus sur le processus électoral avant la publication du nouveau calendrier électoral. Dans une conférence de presse tenue à Kinshasa le jeudi 14 janvier, la plateforme de l'opposition G7 affirme qu'il est possible d'organiser les élections dans les délais constitutionnels et propose entre autres au gouvernement de convenir avec la CENI et les partenaires un plan de décaissement irrévocable de ressources ainsi qu'alléger et accélérer les procédures d'acquisition des kits d'enrôlement et du matériel électoral. Alors comment commentez-vous cette actualité? Vous pouvez nous rejoindre à l'adresse pa@radiokapi.net ou bien nous appeler au 081 890 7315. Notez que toute l'équipe est là pour vous tenir compagnie. Paul Badianyama assure la mise en onde de ce programme, dont Julie Feza est au standard et Pierrot Elamegi est à la réalisation, et Jérôme Gembo coordonne et présente ce programme sous la supervision de Martin Sebou Jangui. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 7315 ou par internet pa@radiokapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguembo.
Nous avons dans ce studio professeur Bob Kabamba, qui est professeur à l'Université de Liège et directeur du Centre d'études politologiques à l'Afrique centrale. Bonjour, prof. Il y a trois auditeurs qui nous ont rejoints dans ce débat, les temps d'ailleurs d'abord de la région, puis recueillir également leurs propos par rapport à cette thématique. Norbert, vous êtes à Kananga. Bonjour, Norbert.
Bonjour,
Norbert, vous avez déposé sur notre page Facebook un message et vous avez dit c'est triste au Congo, ces manœuvres de la CENI de ne pas vouloir publier un calendrier électoral qui soit admis par toutes les parties prenantes. Et voilà, que voulez-vous dire par là?
Oui, certainement, merci beaucoup, monsieur Gier. Bon, personnellement, je suis en train de vivre une psychose et égard à ce qui se passe actuellement au sujet, bien sûr, des élections 2016 au Congo. Alors, monsieur Gier, moi, je me demande ce que le président de la CENI poursuit à la fin de ses consultations avec les confessions religieuses qui sont seulement une partie de la société civile. Or, monsieur Nangaa pouvait incessamment demander au gouvernement de lui disposer les moyens dont il a besoin afin d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. Alors, les élections dans les délais constitutionnels, c'est-à-dire, il doit commencer par, comme les opposants ont posé les préalables, il doit déjà commencer à réviser les fichiers électoraux. Il est en train de partir. Non, on ne comprend pas. La CENI doit, M. Gier, se rappeler de sa mission constitutionnelle. Et toutefois, la CENI doit aussi effectivement nous brandir son indépendance et doit éviter d'être politique. Nous pensons que la CENI doit, de toutes les façons, nous organiser les élections dans les délais constitutionnels. Parce que, maintenant que la CENI est en train d'entretenir ses démarches avec les confessions religieuses, moi je ne sais pas quelles seront maintenant les résolutions de ces consultations et ça va nous aider à quoi? Parce que les opposants actuellement ne sont pas d'accord avec tout ce que la CENI est en train de faire. Or, tout ce temps qu'on est en train de perdre, moi je pense que c'est juste une perte de temps. La CENI doit se mettre au travail, doit faire pression au gouvernement afin que le gouvernement puisse lui donner les moyens, que le gouvernement puisse financer les élections comme en 2006, en 2011, comment aujourd'hui, à la fin de Jérégie et Kabila, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Mais la CENI est en train d'entreprendre les démarches selon lesquelles il veut les consultations avec les confessions religieuses. Non, on ne comprend pas. Donc, c'est une perte du temps par rapport à mon avis. Donc, c'est ça que moi je pense.
Merci.
Je pense que la CENI peut toutefois mener les démarches pour que le gouvernement puisse le financer.
Voilà, merci beaucoup Norbert. Si je comprends bien, vous rejoignez le point de vue des opposants donc, qui l'ont exprimé au travers de cette plateforme de l'opposition, G7, qui affirme qu'il est possible d'organiser les élections dans les délais constitutionnels, tout en mettant un accent sur au fait que la CENI doit se convenir avec les partenaires pour un plan de décaissement irrévocable des ressources et également alléger et accélérer les processus d'acquisition des kits d'enrôlement et du matériel électoral. Alors pour vous, vous concluez que les temps n'est plus favorable, il faudrait que la CENI se mette au travail pour répondre à sa mission qui lui est assignée et si nous disons donc l'exposé des motifs de la loi organique numéro 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante qui stipule que la Constitution confie à la Commission électorale indépendante la mission d'assurer la régularité du processus électoral et référendaire. Merci beaucoup Norbert. Maître Fabien, vous êtes à Matadi. Bonjour.
Bonjour Radio Café.
Vous avez la parole, Maître Fabien. Vous avez suivi Norbert qui a dit les temps ne plus favorables pour nous.
D'accord, exactement. J'ai bien suivi ce que Norbert a dit. Moi-même, je suis en train d'accentuer certaines idées selon que Norbert a parlé. La CENI, celle que nous l'avons définie, la Commission électorale nationale indépendante, nous signifions bien qu'elle est indépendante. C'est de manière théorique. Du fait qu'en RDC, la CENI commence à dépendre, elle n'est plus indépendante. Depuis qu'on a parlé du calendrier électoral, depuis qu'on a parlé pour son respect, on a parlé du respect du processus électoral. Jusqu'à présent, rien de tout ça n'est respecté. Depuis que le gouvernement Matata est installé, à la fin de chaque année, il doit y avoir un montant débloqué pour l'organisation des élections. Mais jusqu'à présent, nous nous demandons comment ce pays qui se dit indépendant et souverain doit chaque fois tendre encore la main pour l'organisation des élections. Et voilà maintenant qu'il est 2016, l'année à laquelle tout peuple congolais s'attend aux préparatifs des élections qui doivent avoir lieu d'ici novembre. Alors, pour le moment, M. Corneille est en train de penser, il pense jusque-là, concevoir le calendrier. Et cette pensée-là et cette conception n'est pas seulement de lui seul, mais il attend plutôt une injonction qui viendra de quelque part, pendant que la commission se dit indépendante, mais il est en train d'attendre une injonction qui viendra maintenant se superposer sur sa pensée afin de sortir ce calendrier. Nous demandons, ce calendrier sera-t-il normalement définitif et respecté ou ça sera un calendrier qui sera encore un jour amendé ou un jour désagréé afin de préparer un nouveau calendrier. Jusque-là, nous trouvons que c'est de manière plénichante que tout peuple congolais ne sait même pas mettre encore de l'espoir sur ce qui concerne le processus électoral. Monsieur le journaliste.
Merci beaucoup Fabien. Sylvain, vous êtes à Kinshasa. Bonjour Sylvain.
Allô?
Sylvain, vous êtes avec nous à Kinshasa. Bonjour.
Oui, allô, monsieur JR, allô, à tous les auditeurs de Radio Café. Abondant dans le même sens que les auditeurs précédents, moi j'avais dit la CENI est un organe indépendant et technique. Le problème ici, c'est le gouvernement qui finance les élections. Le gouvernement met les moyens à la disposition de la CENI. La CENI, en tant qu'organe technique, il élabore du calendrier. Mais présentement, les négociations avec les confessions religieuses. Les confessions religieuses ne financent pas les élections. Les confessions religieuses vont faire quoi et ces négociations vont aboutir à quoi? Moi, je crois que ça, c'est une perte du temps. À mon avis, la CENI veut se mettre à travailler, voir comment élaborer son calendrier. Le gouvernement lui donne des moyens et ça suffit. Donc, à mon avis, je pense que ces négociations-là, ces consultations n'aboutiront à rien. Et c'est ça, ça c'est une perte du temps. C'est pour faire passer du temps, après demain on est là avec des prétextes alors. Et on le fait avec beaucoup plus de précipitation. Le moment il est très petit. La CENI devrait, à mon avis, se mettre au travail. Donc, le reste là, moi, je crois que ça ne sera pas d'incidence des confessions. Parce qu'on n'aura pas une bonne suite sur ça. Les confessions religieuses n'ont pas des moyens financiers ou bien des moyens techniques à mettre à la disposition de la CENI. C'est le gouvernement qui donne l'argent et la CENI. Lui, cet argent, lui, les consultations. Pourquoi faire? Donc, voilà un peu ma petite contribution.
Merci beaucoup Sylvain d'avoir appelé et surtout d'avoir contribué dans cette émission 081-890-6315 pour votre intervention en direct.
Ouvrez l'agenda culturel tous les jours. Les concerts à ne pas rater, les nouveaux disques,
Peinture ou photo, des expositions à voir. Les artistes ont le rendez-vous sur Radio Okapi. La culture congolaise est bien vivante, nous la mettons en valeur. L'agenda culturel tous les jours à 6h20, 8h15 et 14h10. Merci encore de votre fidélité à Radio Capi. Si vous nous rejoignez, bienvenue donc dans Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen qui reçoit dans ce studio professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège et directeur du Centre d'études politologiques en Afrique centrale. Professeur, vous venez de suivre là cette première série. Il y a la question sur les temps qui n'est plus favorable à notre processus, et il y a également cette question de l'indépendance de la CENI. Et tout ça, ça a créé des préoccupations et également des appréhensions auprès de la population qui trouve que finalement on assiste à un jeu de ping-pong entre la CENI et les acteurs politiques.
Je pense que les interventions des différents auditeurs traduisent bien le climat, je veux dire, politique que l'on constate actuellement à RDC. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas nécessairement à bien comprendre ce qui se passe et où on est en train d'aller avec le processus électoral, surtout depuis que nous sommes entrés en 2016. Sur la question de l'indépendance, il faut bien se rendre compte, d'après les textes que vous avez lus, la CENI, effectivement, elle est indépendante. Mais cette indépendance, vous devez savoir qu'elle est subordonnée quand même à toute une série de conditions et toute une série de choses sur lesquelles elle ne peut pas, elle n'a pas de point d'action, elle n'a pas la possibilité de pouvoir agir sans avoir l'appui et le soutien des autres institutions. Ici, il y a un moyen très clair pour être indépendant sans avoir les moyens de votre indépendance. Et donc, les moyens de cette indépendance dépendent du gouvernement, dépendent de toute une série de choses, dépendent de la MONUSCO, dépendent de toute une série d'institutions qui fait que cette indépendance est quelque peu réduite. Donc, on ne peut pas dire que la CENI est indépendante, qu'elle peut faire ce qu'elle veut. Elle ne peut pas elle-même décider que si elle va travailler, par exemple, j'entends qu'on pose des questions sur le fichier électoral, elle ne peut pas d'elle-même décider du jour au lendemain, je fais le fichier électoral. Alors, quel fichier électoral? Est-ce que ce sera uniquement l'enrôlement? Est-ce que ce sera une identification, pas une identification? Est-ce qu'on prend que les majeurs, on ne prend pas que les majeurs, etc. Toutes ces options dépendent du financement que la CENI peut avoir. De ce point de vue-là, quel que soit ce que la CENI doit décider, ça dépend des moyens qui doivent être alloués par le gouvernement congolais. Et j'entends aussi sur la question, notamment, du financement. Si tout ça rentre dans le même sens en disant oui, elle est indépendante, mais elle ne peut pas faire ce qu'elle veut, elle ne peut faire que ce qu'elle veut dans le cadre des moyens qu'on lui donne. Et donc, pour bien comprendre les différentes questions et les réponses que je peux essayer de donner actuellement, pour bien comprendre, puisqu'on parle aussi par rapport au calendrier, pour bien comprendre, la CENI, pour l'instant, avait déposé sur la table hier, maintenant je crois un an, calendrier électoral, mais qui était subordonné, ce que les gens oublient souvent, qui était subordonné à toute une série de conditions.
Des contraintes,
etc. Non seulement matérielles, mais aussi des contraintes financières. Et là, il y avait aussi la question du fichier, il y a aussi des contraintes financières. Ils avaient évalué à l'époque à 1,1 milliard de dollars pour pouvoir tenir les différents scrutins jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin de cette année 2016. En essayant de faire une petite évaluation par rapport à toutes les contraintes que la CENI avait déposées sur la table, il y a très peu de contraintes qui ont été levées. Et de ce fait, on est en janvier 2016, et donc du fait que plusieurs contraintes n'ont pas été levées, donc fatalement, on peut tirer la conclusion qu'il n'y aura pas d'élection cette année en 2016. Le fichier électoral devait être fait, donc il n'est pas encore, apparemment il est à l'ordre du jour, mais on n'a pas encore vu l'effectivité de la mise à jour de ce fichier, ce qui prendra le temps que ça doit prendre. Dans le meilleur des cas, toute une série de gens évoquent des calendriers avec des possibilités, des moyens très serrés. C'est pas possible de pouvoir de dire actuellement que si la CENI commence à refaire le fichier, que même s'il avait les moyens, qu'on aura les élections dans les délais constitutionnels. Et donc tout ceci, bien se rendre compte aussi, lorsqu'on parle de fichier, ça veut dire aussi lié au financement, c'est aussi lié au Parlement. Parce qu'une fois qu'on a fait le fichier, ça ne suffit pas. Il faut aussi refaire au Parlement pour avoir la répartition des sièges qui tiennent compte de ce fichier. Et le Parlement ne siège pas n'importe quand. Ne siège pas n'importe quand. Il y a des sessions ordinaires.
Il n'est pas transparent.
Et tout ça, il faut mettre ça dans un calendrier. Si vous mettez ça dans un calendrier, bon, ça veut dire que si la CENI commence aujourd'hui, la session parlementaire commence le 15 mars, et si la CENI va avoir un fichier avant le 15 juin, et ça veut dire bon, on peut dire qu'il y aura une session extraordinaire. donc du 15 au 16, au 15 juillet. Est-ce que la CENI aura fini? Est-ce qu'à ce moment-là, le Parlement pourra le faire? Et puis, n'oubliez pas que nous sommes dans un système avec le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat, même si on a la possibilité de réduire les différentes possibilités de réduire le temps. Mais tout ça doit être calculé et mettre sur le temps. Et lorsque l'on regarde,
le G7 propose un plan de sauvetage, appelons-la ainsi. Il demande à la CENI, en fait, de convenir avec les gouvernements et les partenaires d'un plan de décaissement irrévocable de ressources. Également, bon, il a même proposé le montant que nous avons parlé de 550 millions. Alors, il a demandé aussi au gouvernement et à la CENI de pouvoir alléger et accélérer le processus d'acquisition des kits d'enrôlement et du matériel électoral. Comment vous analysez ça?
Non, ce n'est pas possible. En fait, ou bien on rentre dans l'illégalité, ou bien on veut être légaliste et on veut que ces élections se passent de manière démocratique et transparente. En disant que l'on va alléger d'abord le processus d'acquisition du matériel, ça veut dire qu'on demande à la CENI de passer des gré à gré, des gré à gré. Alors, ça veut dire à ce moment-là, vous savez très 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 bien ce que ça veut dire des gré à gré. Dans le contexte international, ce sont des méthodes dans lesquelles toute la plupart de, qui sont à l'encontre, on demande une bonne gestion et de la bonne gouvernance. La méthode de gré à gré doit être dans des conditions très particulières et de manière sur des questions qui sont bien définies par la loi et dans des contraintes qui sont bien décrites dans la loi. Mais uniquement pour bien comprendre la prestation des marchés pour accueillir des kits, si on respecte les appels d'offres internationales, etc., pour qu'on puisse avoir non seulement les offres, ensuite après ouvrir des enveloppes pour savoir qui a gagné le marché, ensuite seulement il faut déployer. Je ne sais pas si on se rend compte des fois quand on parle de déploiement des matériels, ça ne veut pas dire simplement amener les matériels à Kinshasa, ça veut dire amener des matériels à Dungu, à Ubundu, à je ne sais pas, à Aru, etc. C'est une série d'endroits où la société elle est tout à fait problématique. Et donc, tout ça, quand on met ça dans un calendrier, et on va bien se rendre compte que ce sera difficile que la proposition du G7
soit faisable. Quel est le regard politique que vous avez aujourd'hui par rapport à des supputations, par rapport à la passion qui a le domicile dans les chefs des uns et des autres, surtout qu'on sait qu'on était déjà très engagé dans une régularité de processus électoral, avec les élections de 2006, celles de 2011, mais subitement, il y a un drainage, et puis la machine ne s'est plus tournée. D'un côté, on parle de problèmes de financement. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une volonté manifeste de ne pas financer cette élection par celui qui était habilité à le faire?
Donc, il y a plusieurs choses que vous évoquez. En fait, il faut se rendre bien compte que nous sommes dans un contexte politique particulier. Et les difficultés qui arrivent actuellement pouvaient être anticipées depuis bien avant. C'est-à-dire, dès 2011, on savait très bien que nous rentrons dans le dernier mandat du chef de l'État et que tout devait être mis en place pour qu'il puisse y avoir ce qu'on peut appeler alternance, etc. Vous avez toute une série de gens sont en train de parler. On se rend bien compte que pendant toute la législature, effectivement, on n'est pas entré dans une dynamique en disant que nous aurons des élections en 2016, et ces élections de 2016 amèneront fatalement à avoir soit un changement au niveau de la tête de l'État. Ça veut dire aussi, soit est-ce qu'on parle du changement de régime, parce que je crois que ça aura suivi hier, il y avait tout un débat sur les partis politiques, en disant que les partis politiques cherchent à avoir le pouvoir et à le garder, à le conserver le plus longtemps possible. Donc ça veut dire que même en 2016, travailler pour que, si c'est la majorité qui gagne, bon, que la majorité gagne, si le régime continue, si c'est l'opposition qui gagne, c'est l'opposition qui gagne, et on va avoir un changement de régime, etc. Mais tout ça n'a pas été préparé. Alors comment on n'a pas été préparé? On se retrouve maintenant ici en 2016 que l'on doit commencer à précipiter et à bousculer les choses. Et bousculer les choses et précipiter les choses, en matière électorale, c'est la pire des choses à pouvoir faire et on risque de ne pas avoir des élections apaisées et libres de nos habiletés.
Alors on va retourner de l'autre côté du standard avec Aristote qui nous a rejoint également à Walikale, Maître Michel Kananga et Maître Sovine Alboumbashi. Aristote, bonjour et bienvenue.
Bonjour Radio Papi et bonjour à tous les auditeurs qui m'écoutent à cette heure.
Vous avez la parole Aristote. Quel est votre avis?
Oui, merci. Moi je pense que je vais parler par rapport à la CENI, parce qu'on nous veut dire que la CENI est toujours indépendante. Mais c'est ça la réalité? La réponse est non, parce que si on voit la façon dont la CENI est en train de gérer le pays, la façon dont la CENI est en train de faire ses mécanismes pour que ces élections n'aient plus lieu, vous allez comprendre qu'il y a une petite coopération entre la CENI et les gouvernements en place. Pourquoi je dis ça? Quand la CENI va dire non, il n'y a pas de moyens pour organiser les élections. Alors le gouvernement est en train de mobiliser l'argent à partir des taxes, redevances et impôts qu'il est en train de faire pour au moins bien diriger le pays par rapport à tous les points. Mais la CENI veut dire non, toujours, il n'y a pas d'argent.
Oui, Anton, si on peut évoluer, vous avez suivi vos prédécesseurs, les uns ont évoqué la question du temps, aujourd'hui on n'a plus assez de temps, notre invité est revenu sur l'impréparation, la défaillance de ceux qui devaient également prévoir et aussi nous mettre dans cette dynamique de la régularité du processus électoral. Aujourd'hui on sent qu'il n'y a rien qui s'est préparé. Est-ce que vous partagez l'avis selon lequel on n'a plus assez de temps, mais là, il faut aller dialoguer pour trouver un point de sauvetage?
Oui, c'est ça. Les prédécesseurs ont raison. Pourquoi je dis ça? Moi, je dis ça, c'est pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que la CENI est en train de monter avec le gouvernement. Il y a quelque chose que la CENI monte avec le gouvernement pour que ces élections n'aient plus lieu. Parce que par rapport au temps, il n'y a plus de temps. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes le janvier. Et le mandat va juste s'écrouler ici au mois de décembre. Où est le temps encore? Il faut qu'il y ait au moins. Il faut qu'il y ait le temps. Il n'y a pas le temps. C'est une chose que la CENI a gérée avec le gouvernement. C'est ça. Donc, c'est quelque chose, c'est une coopération. Donc là, je veux dire que la CENI est dépendante.
Voilà. Si je comprends pour faire comprendre un peu l'imaginaire général. Donc pour vous, il y a une complicité entre la CENI et ceux qui sont au pouvoir. Merci beaucoup, Aristote. Maître Michel, vous êtes à Canada. Bonjour, maître.
Bonjour, Joël Ngembo. Bonjour à la radio Capi. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi. Bonne année 2016.
Vous avez la parole, maître Michel.
Oui. J'ai Lungembo, quand j'ai tenté d'analyser le point de presse que M. Corneille Nangaa a tenu la semaine passée, nous comprenons que le président de la CENI ne comprend pas que l'institution dont il est en train de diriger, c'est une institution indépendante. Lorsqu'il nous dit, pour faire sortir le calendrier qui va être favorable à tout le monde, il faut que les politiciens puissent d'abord se réunir et trouver le consensus de manière que lorsque moi je dois publier le calendrier, que ça soit pas contestable par tout le monde. Là, nous trouvons qu'il fait allusion au dialogue, au fameux dialogue, qu'il ne peut même pas nous donner des résolutions jusque-là. Alors, nous comprenons que le président Corneille Nangaa est en complicité avec le gouvernement pour distraire le peuple congolais. Puisque par rapport à ce que nous avons donné confiance, lui... Allô?
Allez-y, maître Michel.
Oui. Lui, il est à la tête d'une institution indépendante. Il est capable de ce qu'il peut réclamer auprès du gouvernement, ce n'est plus que les moyens. Puisque par rapport au temps qui nous reste, et le délai constitutionnel que nous voulons que ça soit respecté, nous ne trouvons pas qu'il y a encore occasion pour qu'il nous parle, qu'il fasse allusion au dialogue. Puisque en lisant son discours attentivement, nous comprenons qu'il est en train de faire allusion au dialogue. Mais nous ne voulons pas de dialogue puisque nous ne trouvons pas que le travail de la CENI doit être lié au dialogue. Il fait seulement insister pour l'argent afin que le gouvernement puisse lui doter de moyens nécessaires pour
faire son calendrier et publier. Maître Michel, là où certaines personnes ne comprennent pratiquement rien du tout, en fait, la démarche du président de la CENI, c'est pour aboutir à obtenir un consensus sur les processus électoraux avant la publication du nouveau calendrier électoral, raison pour laquelle il poursuit donc ses consultations avec des confessions religieuses. Mais entre-temps, de l'autre côté donc de l'opposition, on propose déjà, parce qu'on sait qu'il faut aller aux élections et aller le plus vite pour... d'obtenir l'alternance, mais entre-temps, cette même question du calendrier ou du processus électoral, c'est parmi les contenus du dialogue politique. Alors, c'est ce qui complique un peu les choses. Est-ce le cas aussi pour toi?
Non, ce n'est pas le cas pour moi, normalement, cher Lungemo, puisque le dialogue, des résolutions du dialogue n'est pas lié avec le travail de la CENI. La CENI va commencer à préparer son calendrier, le publier, de manière que le temps qui nous reste, ce n'est pas un temps qu'il faut encore attendre le dialogue. Puisque le dialogue, quand on a parlé du dialogue, on a dit qu'on devrait faire publier le comité protestant du dialogue dans 10 jours. Le 10 jours est déjà passé.
Merci, madame.
Alors,
oui, j'ai compris, vous avez dit les 10 jours largement dépassés. Oui, nous avons y abordé cette question parce que bon, en fait, on avait associé des juristes hein, pour voir un peu les aspects juridiques d'une ordonnance qui n'a pas connu un effet immédiat. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faudrait-il abroger cette ordonnance et en créer d'autres? Au cours de cette émission, nous allons également avoir le point de vue de notre invité par rapport à quelques points sur cette ordonnance et également le discours du chef de l'État en ce qui concerne les facilitateurs, d'ailleurs, qui arrivent, je ne sais pas, aujourd'hui ou demain, qui sera dans nos milieux. Maître Michel, merci beaucoup d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission. On prend Maître Sonville depuis Lubumbashi. Bonjour, Maître Sonville.
Bonjour, M. Gilles. Bonjour, invité le professeur Bob Kabamba, mais bonjour aussi à tous les auditeurs de la radio Fati. Par rapport à la thématique, M. Gilles, moi j'estime que c'est du fiasco. Si M. Corneille Nanga est allé consulter encore les confessions religieuses, il est l'émanation de ces confessions religieuses. Il est allé chercher la bénédiction avec laquelle il peut accomplir la mission qui lui a été dévolue pour l'église. Moi, je trouve que c'est ça. Si je le dis, pourquoi, monsieur Gilles? Hier, nous avons eu l'occasion de suivre monsieur Bachelévi, vice-président de la CENI au niveau de l'Ubumbashi, par rapport à sa délégation. Qu'est-ce qu'il a dit? Moi, je trouve que la CENI n'est plus CENI, c'est devenu CENI. Commission électorale nationale dépendante, soit qui est en train de jouer en sourdine le rôle de l'ONU. Monsieur Bachengezi a dit il faut 13 mois pour refaire toute l'opération d'armement à zéro par rapport au doublon, nouveau majeur, des ex-détenus, le congrès de l'étranger, tout ça. Or, ce point a été demandé il y a une règle par l'opposition politique. Rien n'a été fait. Et quand il parle de 13 mois, il a dit que le coup d'envoi a été donné au niveau de la TADI par monsieur Corneille Nanga. Par rapport à tous ces faits. Mais quand il parle de 13 mois, ça n'a pas encore même débuté. C'est pour aller en 2017. Et voilà comment est-ce que la CENI est en train de faire le jeu du pouvoir. La CENI est inféodée
oui,
par la politique
oui,
du pouvoir.
Oui, maître
la CENI est en allégeance avec le pouvoir. Oui, alors.
Maître Sauvé, vous venez de suivre notre invité tout à l'heure qui nous a montré des faits qui, en fait, aujourd'hui, sur le plan politique, et ce n'est plus possible d'organiser des élections. Dans les délais constitutionnels, parce que il y a plusieurs acteurs qui entrent en ligne de compte. Il y a le Parlement, et c'est vrai, 13 mois, bon, peut-être c'est lui, peut-être on peut aller aussi au-delà de 13 mois, qui sait, parce que, ben, sous réserve des experts, aujourd'hui, si nous faisons les calculs, déjà, les parlementaires sont en vacances, ils vont reprendre le 15 mars, s'il faut compter cette session qui va aller jusque le 15 juillet ou avant le 15 juin, pour revenir encore au mois de septembre pour la session budgétaire. Il y a d'autres matières qui sont restées pendantes. Il n'y a pas que cette matière qui sera mise en priorité. Donc, il y a plusieurs autres matières qui seront traitées. Alors, je ne sais pas à votre niveau, oui. Vous n'estimez pas comme le veille, mais c'est compliqué, il faut simplement aller dialoguer.
Moi, j'estime que ce n'est pas compliqué. Avec la volonté de ce soi-disant parlementaire, monsieur, vous êtes sans oublier que ce Parlement, c'est une tête à résonance du pouvoir. Vous savez comment, dans quelles conditions, certains se sont retrouvés comme députés nationaux au niveau du Parlement.
Oui, c'était notre débat.
Par rapport
oui,
aux moyens.
Notre débat.
Oui, par rapport, oui. Par rapport aux moyens auxquels a fait allusion M. Bob Kabamba. Il y a plusieurs contraintes. Ces contraintes ont été énoncées. Il y a des lunettes. J'estime que la CENI fait des données avec le label Malumalu, soit disant que les moyens ne sont pas décaissés à son profit. Et qui devait débloquer cette situation? J'estime que c'est le gouvernement. Il n'y a pas de volonté dans le chef du gouvernement, il n'y a pas de volonté dans le chef du chef de l'État, pour que si le chef de l'État vraiment pesait pour les élections, il devait insulter le gouvernement de décaisser cet argent qui a été toujours retenu.
Bon, on n'est pas dans les
secrets. Par rapport à monsieur,
les standards continuent à sonner, on va accorder la parole à tout le monde. Oui, allez-y rapidement.
Si je peux insérer le terminé.
Oui, allez-y.
Oui, monsieur Bachengezi nous a parlé de véhicules qui devaient être acheminés au niveau de l'Ubumbashi. Il nous parle de deux véhicules par province. Par rapport d'abord à la dimension, à l'étendue même de la nouvelle province de Katanga, les deux véhicules vont faire quoi? Il a passé peut-être 3 heures du temps en me parlant, en faisant allusion à la situation qui se passe en Libye, en Syrie, en Tombouctou, pour dissuader les participants à cette rencontre-là.
Voilà, merci il beaucoup. A même pas donné de temps. Merci beaucoup, Maître Sauville. On va s'arrêter là. Avec vous, 081-890-6315, pour votre intervention en direct, si vous pouvez intervenir dans cette émission.
Parole aux auditeurs.
Nous poursuivons avec parole aux auditeurs dans ce studio avec maître, pardon, avec professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège et directeur du Centre d'études politologiques à l'Afrique centrale. Professeur, vous venez de suivre cette deuxième série d'auditeurs. Il y a la question du temps qui a également été évoquée. Il y a d'autres qui sont en fait avec beaucoup de passion et même des appréhensions par rapport à cette question. Je ne sais pas, aujourd'hui c'est vrai. Le tableau tel que ça se présente, on s'est dit, on est vraiment, on a plafonné, et il faut carrément, la solution évidente, c'est seulement aller dialoguer.
Vous savez, c'est le problème aussi qui survient lorsque l'on entend les différents auditeurs, c'est que il n'y a pas un message clair. En fait, il y a une espèce de pluralité de messages et sur lesquels cette pluralité de messages fait en sorte qu'il y ait un cafouillage au sein de la population. Ça veut dire qu'on ne se retrouve plus. On ne sait plus si on doit attendre la CENI avec son calendrier, avec ses budgets, etc. On ne sait plus si on doit attendre le
dialogue
panacée pour résoudre les problèmes. On ne sait plus si on doit attendre le facilitateur, le médiateur, je ne sais pas quoi, etc. qui doit arriver. Donc on ne sait plus. Alors comme il y a cacophonie au niveau des messages qui sont transmis, et ça se répercute au niveau de la population. Et la population ne s'y retrouve pas. Et les différentes questions qui sont les leurs, elles sont tout à fait légitimes du fait que on ne sait pas très bien comment, quid, est-ce que ce sera le dialogue, ce sera les élections, est-ce que ce sera la MONUSCO, pas la MONUSCO, etc., etc. Toute une série de questions sur lesquelles je ne peux que attester
quelle est. Mais quelle est la part de responsabilité du gouvernement congolais dans tout ça?
Je pense qu'il y a beaucoup de choses, parce qu'il y a plusieurs agendas en fait qui se s'entrecroisent et qui font en sorte que le message devient de plus en plus illisible. La CENI a ses missions d'organiser des élections. Elle doit les organiser dans les délais constitutionnels. Le gouvernement a l'obligation de pouvoir mettre à disposition des moyens à la CENI. Le Parlement doit voter des lois pour permettre à la CENI de fonctionner. L'armée doit sécuriser l'État pour permettre aux élections qui puissent se passer en toute sécurité. Il y a la MONUSCO qui, aussi dans sa mission,
les partis politiques doivent veiller au respect de l'alternance.
Les partis politiques qui doivent conquérir le pouvoir, etc. Et donc vous avez ces différents agendas qui font en sorte que ces différents agendas ne se croisent pas. Et comme ça ne se croise pas, et chaque contenu dans sa vision et dans sa ligne, et vous avez cette cacophonie et qui se retrouve au sein de la population. Même si vous faites, on a déjà plus ou moins là 10 auditeurs qui sont intervenus, donc 7 auditeurs qui sont intervenus, et dans les interventions, on se rend bien compte effectivement que s'il prend la lecture de la CENI, oui, la CENI n'a pas organisé l'élection. S'il parle du point de vue du gouvernement, le gouvernement n'a pas donné les moyens. S'il parle au niveau du dialogue, le dialogue il en est où, on ne sait pas s'il va avoir lieu, etc. On dit que le dialogue va être pour le glissement. Ça veut dire que les partis politiques qui vont au dialogue vont au glissement. Donc ils ne sont plus dans la conquête du pouvoir, mais dans le pouvoir via le dialogue. Donc vous voyez que ces différentes calendriers et agendas ne se croisent pas. Et comme ça ne se croise pas, on a cette cacophonie. Or, il devient normalement de ce point de vue normal de se dire, ok, voilà, le gouvernement ou en réunion interinstitutionnelle, ça veut dire que toutes les institutions qui sont concernées par la question fixent l'opinion publique par rapport à ces différentes questions. Ça veut dire grosso modo, on peut dire, je ne sais pas, on peut dire il n'y aura pas d'élection, nous allons au dialogue parce qu'il n'y aura pas d'élection. Pourquoi il n'y aura pas d'élection? Parce que le fichier n'est pas à l'ordre, parce qu'il n'y a pas d'argent, etc., etc. Donc nous allons au dialogue. Pourquoi faire? Nous allons au dialogue pour pouvoir faire dans quelle mesure, etc., organiser. Si c'est ça que la réunion le dit, si ce n'est pas ça en disant ok, il n'y a pas de dialogue, on va aux élections, bon, dans ce cas-là, on donne les moyens à la CENI pour que la CENI organise.
Est-ce que, professeur, vous pensez comme les autres que la tripartite qu'organise la CENI, entre la CENI, l'opposition et la société civile et la majorité, elle est quand même l'idéal pour résoudre quand même des questions techniques relatives au processus électoral?
Si vous parlez des questions techniques, oui, on peut dire que ça reste au niveau des questions techniques. Mais malheureusement, quand on parle de processus électoral, vous savez très bien que dans la loi sur les partis politiques, ça veut dire que les partis politiques doivent, qu'on veuille conquérir le pouvoir,
et les conserver le plus longtemps possible.
Oui. Vous devez vous rendre compte que, et uniquement par rapport à cette année-là, vous devez savoir que aller aux élections, aller dans un processus où on ne met en place que la CENI, etc., sans tenir compte de cet enjeu, je ne pense pas que ça va résoudre donner un résultat. D'autant plus que les questions liées justement à la, uniquement à la tripartite des votes techniques dépendent, ces questions-là, dépendent malheureusement du gouvernement, dépendent des autres institutions, dépendent de l'armée, dépendent de la MONUSCO, etc., etc. Donc, ça veut dire grosso modo, si la série doit le faire, elle doit faire plus ou moins.
Voilà, il y a du coup, avoir des repartitions de côté des standards, mais il y a quand même une inquiétude d'un auditeur qui, en fait, au regard de l'actualité, de l'évolution de l'actualité, en 2006, tout comme en 2011, en tout cas 2011 après, nous avons vu, d'abord, tout est parti en 2006, quand l'opposition réclamait encore la révision du fichier électoral, avec cette histoire des jeudis, disons des manifestations tous les jeudis, devant la télé, et puis en 2011, l'UDPS qui continue à réclamer l'impérium, et aussi avec d'autres membres de l'opposition qui ont réclamé d'ailleurs le dialogue politique, je me souviens à cette époque, si ma mémoire est très bonne, sous réserve de ceux qui, en fait, auront peut-être une autre interprétation, le ministre Mende Omalanga qui a dit officiellement qu'il n'y aura pas de dialogue parce qu'il y a déjà eu concertation nationale, il n'y a pas crise, donc on ne peut pas dialoguer. Alors, finalement, on se retrouve dans une nébuleuse, dans un flou qui ne dit pas son nom.
Oui, et même, on peut même aller au-delà. Vous êtes limité uniquement à ça. On peut aller encore beaucoup plus loin pour essayer de comprendre un petit peu. Vous avez omis l'accord
d'Addis-Abeba.
Vous avez omis toute une série de résolutions qui avaient été prises depuis bien longtemps et sur lesquelles on revenait c'est toute une série de questions, notamment la question du fichier, notamment la question de l'identification de la population, où beaucoup de gens réclamaient cette identification à l'isolement. Il fallait une identification pour arriver à avoir un corps électoral qui soit le plus juste possible. Bon, vous savez comme moi comment cette question a été abordée et comment elle a été finalement non résolue. Et on revient encore à nouveau avec ces différentes questions. Et lorsque vous mettez tout ça sur la ligne du temps, ben, on arrive effectivement à cette cacophonie. C'est-à-dire, en même temps, on dit, ben oui, allons même dans le sens en disant, ben oui, on va faire le dialogue. Mais non, ici, on a un facilitateur qui arrive. Bon, facilitateur, j'essaie de lire un petit peu ce qu'il y avait au niveau de sa mission. Ben, c'est pas vraiment un facilitateur, c'est plutôt un médiateur qui est venu, et pas un facilitateur, puisque il est venu pour essayer de concilier les différents points de vue. Pour que tout le monde se mette d'accord en disant, on peut aller au dialogue sans nécessairement intervenir sur le cadre et sans nécessairement intervenir sur le contenu de ce dont on va parler. Donc lui, il n'est venu que dire, il va parler de l'opposition, il va voir.
Mais là aussi, il y a quand même une confusion avec le discours du chef de l'État, l'ordonnance signée. Tantôt on parle de médiateurs, tantôt on parle des co-médiations, tantôt c'est les facilitateurs. L'Union africaine, qui n'a même pas été citée dans l'accord cadre d'Addis Abeba, parce que c'est l'accord cadre qui demande à ce qu'on dialogue sous le auspice de la société. Bon, finalement, c'est la bouillabaisse. Je ne sais pas, moi, je ne sais pas. Là, carrément, d'autres personnes trouvent qu'il y a l'appréhension des auditeurs, c'est justifié quand même.
L'appréhension se justifie de manière claire, sans ambiguïté, et je pense que c'est quand même important pour les autorités quand même du pays de pouvoir mettre le point sur les i et taper du point sur la table pour que, en fait, qu'on remette l'église au milieu du village. Je m'excuse pour les musulmans, qu'on remette l'église au milieu du village, puisque toutes les différentes questions auxquelles les auditeurs abordent confirment le flou et dans lequel on se trouve. Le revenu de faire le cas, par exemple, par rapport à Adem Kodjo, dans le communiqué, puisque c'est un communiqué qui est sorti, on dit qu'il est facilitateur. Bon, normalement, dans la logique des discussions, dans la logique des négociations, dans les logiques du dialogue, un facilitateur, c'est celui qui se met au milieu, en fait, qui aide les gens quand ils ont déjà commencé la discussion et qu'il y a des points de blocage. Le facilitateur vient maintenant pour essayer d'aider à éclairer, à faciliter entre les gens qui sont divers au sein du dialogue. On n'est pas dans le dialogue. On est à bien avant le dialogue. Donc nous sommes dans ce qu'on appelle la médiation. C'est-à-dire, grosso modo, ce qu'il doit faire, et d'ailleurs c'est ce que le communiqué dit, il dit facilitateur, mais il doit faire la médiation. Il doit avoir la majorité, il doit avoir l'opposition, il doit avoir la société civile, et essayer simplement qu'il se mette, qu'il soit.
Ça ne va pas revenir à la case de départ des consultations.
Exactement, il revient à la case de départ.
Voilà, on va réécouter les auditeurs qui nous ont rejoints. Ils sont trois, Fidel, Bénin et Kilima. 081-890-6315 pour vous tous qui aimeraient bien intervenir dans cette émission.
Parole aux auditeurs.
Fidel, vous êtes avocat, vous, bonjour et bienvenue.
Merci beaucoup, J.R.
Vous avez la parole, quel est votre point de vue?
Le sujet d'aujourd'hui. Oui, merci, J.R. Permettez que je puisse saluer même les autres de la radio Capi.
et aussi en une phrase, permettez que je puisse aussi féliciter la radio Capi pour tout le travail qu'ils sont en train de mener, quelles que soient les conditions.
Merci beaucoup, ça nous va droit au cœur. Voilà, merci Fidèle. Quel est votre avis par rapport à cette question?
En fait, concernant les sujets d'aujourd'hui, je montre aussi comme si le gouvernement avait la volonté ou la majorité avait la volonté, nous serons pris à ces sujets aujourd'hui. Mais tout ce qu'ils sont en train de nous montrer, c'est montrer qu'ils veulent seulement les glissements. Pas question si ce n'est pas les glissements. Aujourd'hui, avec Corné Nanga qui nous ont amené, ça devient encore des consultations au lieu d'organiser ou bien au lieu de nous donner un calendrier qui va tout droit aux élections, ça devient encore des
voilà. Merci beaucoup Fidèle, parce que on a plus assez de temps pour vous. Il faut qu'on aille vite en maison, parce que les temps fait défaut que Corneille Nanga puisse faire en sorte que nous ayons déjà le calendrier électoral pour permettre à ce que les acteurs politiques se préparent pour aller aux élections. Merci beaucoup Fidèle. Bénin, vous êtes à Kinshasa, bonjour. Bénin, vous êtes avec nous? Voilà, on prend Kilima qui est dans le Bandundu. Voilà, il est à Bandunduville. Kilima, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous, Radio Café, merci beaucoup.
Vous avez la parole.
Oui, merci pour la parole. Bon, je voulais donner mon même avis. Je pense, à propos de cette consultation, j'espère que c'est une bonne chose pour moi. Parce que nous nous souvenons qu'il y a l'équipe de structure de la CENI avait publié son calendrier à son temps et ce calendrier n'a pas été accepté par tout le monde. Ça, qui n'avait pas été consulté. Je pense que c'est une chose qui est bonne. Mais seulement ce que je suis ici de la CENI, il devait, au lieu de passer beaucoup de temps à aller consulter celui-ci, celui-là, et il appelle les gens autour de lui pendant 2-3 jours, et chacun donne ses idées, parce que nous avons déjà passé beaucoup de temps. Et ce n'est pas possible d'organiser toutes les élections. Mais qu'on parte dans les nécessaires, ce qui est le plus important, ce qui pose problème. Si vous pouvez appeler tout le monde autour d'une table et aller, qu'est-ce que nous devons faire? On supprime les élections, par exemple, locales et provinciales, nous allons directement aux élections présidentielles. Quelque chose que vous pouvez faire dans 2-3 jours. Mais la démarche que la CENI a prise, je pense que...
Kilima, le chef de l'État, dans un de ses discours, il avait même prononcé, lorsqu'il était intervenu devant les deux chambres réunies en congrès, il avait proposé un mode de scrutin, le moins coûteux. Hein. Il dit c'est le moment de réfléchir par rapport à ça. Et je crois que les G7 qui pensent que, c'est possible d'organiser les élections dans un délai constitutionnel, j'imagine qu'ils ont fait allusion à cette réflexion déjà, si on peut réfléchir à organiser un monde de scrutin moins coûteux, je crois que ça peut aller, on peut être dans les temps.
Non, je ne pense pas vraiment ça. Parce que nous nous souvenons qu'en 2011, il y a moins d'une année, on a organisé les élections aussi facilement. On n'avait pas changé le mode de scrutin. On peut utiliser, parce que c'est seulement question de volonté. Si la CENI devait rassembler tout le monde, c'est de lui. Peut-être nous parler des dialogues, non.
Voilà, merci beaucoup Kilima, vous êtes encore optimiste comme l'opposition G7 qui affirme qu'il est possible d'organiser les élections dans les délais constitutionnels si jamais la CENI tenait donc à ces deux dispositions, notamment convenir avec les partenaires ainsi que le gouvernement d'un plan de décaissement irrévocable de ressources, arriver également aussi à alléger et accélérer les procédures d'acquisition des kits d'enrôlement et du matériel électoral. Félicien, vous êtes à Kinshasa, bonjour et bienvenue.
Bonjour GR, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Quelle est votre analyse par rapport à cette thématique?
Moi je trouve que nous sommes dans un théâtre où tout le décor est déjà planté et chacun est en train de jouer son rôle. Le président de la CENI est en train de jouer son rôle en tant qu'expert de la CI d'abord et puis de la CENI après, de 2006 et 2011. Et vous savez ce qu'a été cette institution. Et il est en train de gagner du temps pour que nous arrivions une situation chaotique. Et de l'autre côté, vous avez cette fameuse opposition qui dit toujours non, même quand il voit qu'il doit dire oui, mais il n'a pas le courage de dire oui, il dit non. Et ils veulent perdre le temps et en attendant, les heures passent, les jours passent et les mois passent et nous arriverons à novembre. Et à novembre, ça sera la grande concertation sur ce qui doit faire quoi.
Félicien,
vous avez...
Oui, Félicien.
Oui.
Je crois qu'une fois, nous avons reçu, pas plusieurs fois d'ailleurs, l'opposition dans ces studios. La grande question qui revient toujours, c'est que après le 20 novembre 2016, si jamais les élections ne sont pas organisées, qu'adviendra-t-il? Donc, et nous avons compris que toutes les réponses qui nous ont été données, c'est autour de l'article 5 de la loi portant fonctionnement de partis politiques, qui stipule que dans la création, organisation et fonctionnement, les partis politiques veillent au respect du principe de l'alternance au pouvoir pour par la voie du libre choix du peuple. Alors aujourd'hui, c'est vrai, le libre choix du peuple, sont les élections, mais les élections, on est au bord du mur, ça ne sera pas organisé, c'est tout un problème, Félicien.
Oui, mais justement, ils n'organisent pas les élections, et comment ils vont évoquer cet article? Parce que tous ils sont en train de contribuer à ce que les élections ne puissent pas avoir lieu. Et quand vous voyez les G7 qui étaient hier au gouvernement, il y a 4 ans durant, et aujourd'hui il y a eu des membres, un plan de décaissement. Mais il faut leur demander, quand ils étaient là, ils avaient déjà dit qu'ils étaient combien, parce que c'est pas un exercice qu'on va décider l'argent pour les élections. La confusion, et le temps passe, vous allez aller au dialogue, trouver un compromis politique, parce que nous ne sommes pas obligés de suivre les autres. Nous sommes des Congolais, nous avons nos problèmes, nous pouvons avoir notre démocratie à la Congolaise. C'est-à-dire que nous sommes devant un problème, nous trouvons des solutions qui s'adaptent à notre situation. Mais pas toujours, non la constitution, non les élections, non tout ça. Mais en attendant, le temps passe. Et quand on va arriver à novembre, et ça sera non, c'est le président qui doit continuer, c'est lui qui doit organiser les élections, ou bien c'est un autre qui doit entrer, et ça sera la grande confusion. Moi, je pense que c'est le moment que les gens mettent de l'eau dans leur vin et qu'on aille au dialogue, qu'on trouve un compromis politique. C'est de la destruction de faire la démocratie à la Congolaise.
Merci beaucoup, Félicien, parce que vous avez également insisté sur le G7. L'un des membres de G7 qui nous a rejoint à ce débat. C'est une surprise pour nous, voilà, donc on ne sait pas. Nous sautons sur l'occasion pour avoir aussi leur point de vue. Christophe Lutundula, vous êtes avec nous?
Oui, bonjour JR.
Oui, honorable, bienvenue dans cette émission. Vous venez de suivre les interventions des uns et des autres. D'abord, à chaud, quelle est votre réaction?
Oui, je dois d'abord vous dire que j'ai honte de mon pays. Je suis très peiné de dire ce que je vais vous dire et que les compatriotes me pardonnent. C'est le cri de la révolte. Généralement, lorsqu'on termine un cycle électoral, on installe les institutions issues des élections. C'est à partir de ce moment-là qu'on commence à préparer les prochaines élections. Les élections ne doivent pas être un fait du hasard, un accident de l'histoire ou quelque chose qui tombe du ciel. Que non, nous avons une constitution, nous avons des institutions qui fonctionnent normalement, il faut préparer les élections dès que des animateurs élus sont installés. C'est pour cette raison, parce qu'on a parlé du Parlement. Nous au Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée et le Sénat, depuis l'installation de l'Assemblée nationale, parce que bon, en 2012, c'est l'Assemblée qui a été installée. Nous avons toujours prévu une ligne de crédit destinée aux élections chaque année, je veux dire, à chaque exercice budgétaire. À peu près 200 millions de dollars. Parce qu'on parle du Parlement, nous avons fait notre travail. Et maintenant là, on parle de finances. Mais bon sang, nous venons d'avoir une session budgétaire. C'est à l'Assemblée et au Sénat que dans un pays qui fonctionne normalement, ça se discute. Le gouvernement nous a amené un budget de l'ordre de 500 millions de dollars. Nous l'avons voté. C'est le gouvernement qui nous l'a amené. Bon. Et le budget pour la présidentielle et les législatives, c'est à peu près 480 millions, c'est-à-dire moins que ce que nous avons retenu dans le budget. Et ce n'est pas une simple prévision, c'est un engagement politique majeur. Je voudrais saisir de l'occasion pour dire à mes compatriotes, organiser les élections n'est pas une activité banale. C'est une obligation constitutionnelle d'un pouvoir établi. C'est de la même manière que le gouvernement, le pouvoir de manière générale, parce qu'il ne faut pas situer cela uniquement au niveau du gouvernement, que le pouvoir doit assumer comme la défense nationale, la sécurité du territoire, le développement économique. Mais chez nous, on banalise les élections comme quelque chose qui n'est pas nécessaire. Et aujourd'hui, on commence à nous dire, oui, à choisir entre élections et développement, mais c'est extraordinaire.
Oui, on aura des
pays comme le nôtre, avec tout ce qu'il a comme intellectuel, je m'excuse de dire ça,
on aura
ce qu'il a comme homme expérimenté, et on veut considérer que les élections, c'est une banalité. Donc c'est la première chose que je voulais dire. C'est une honte pour nous, et il ne convient pas tout le temps qu'on dise que ce n'est pas possible d'organiser les élections. Non, c'est honteux pour le Congo. Et deux, bien, on nous parle du dialogue. Oui, le dialogue fait partie des vertus de la République et de la démocratie. Mais comment en est-on arrivé là? C'est tout simplement parce qu'à un moment donné, je suis désolé, je l'ai déjà écrit, bon, le président, c'est légitime pour lui, il est citoyen, a estimé qu'il doit remplir pour une troisième fois. C'est ça qui cause tout ceci. Et alors, il s'est mis en place.
Oui, oui, honorable Pierre. On peut considérer ça un simple procès d'intention, parce que nulle part nous avons vu ou entendu le chef de l'État dire qu'il est prêt à briser un troisième mandat.
Je vous comprends.
Voilà. Je vais encore plus loin.
Messieurs, nous ne sommes plus à l'époque où on comptait les universitaires de bout de doigt, les diplômés des humanités de bout de doigt. Non. Et là, je réponds. Parce qu'il y en a qui nous disent que le chef de l'État n'a pas l'obligation constitutionnelle de se prononcer. Que oui, il en a. L'article 69 de la Constitution donne au président de la République, qui qu'il soit, une obligation générale d'assurer la bonne tenue de la nation. Je résume ça comme ça. Respect de la Constitution, les accords, forcément les lieux de pouvoir public, la bonne tenue de la nation. Dès qu'il y a un grain de sable qui est introduit dans la machine nationale et qui crée de l'effervescence au sein du pays, il est du devoir constitutionnel du président de la République de fixer l'opinion pour dire « calmez-vous, on va très bien ». Parce que celui, vous dites ça garant de la nation, bon, en prêtant le langage de la République française sous De Gaulle. Moi, je dis tout simplement, garant de la bonne tenue de la nation. Donc, on ne peut pas banaliser ça. C'est le président de la République. Et le silence du président, ou les équivoques, quand il fait un discours sur l'état de la nation, quand il annonce le dialogue, aucune allusion à la Constitution.
Voilà.
Tout cela, alors, c'est de l'effervescence dans l'opposition.
Oui,
laissons ce côté-là.
Il y a eu beaucoup de débats autour de ça.
Honorable, sur le problème
honorable, parce qu'on n'a plus assez de temps, il ne nous reste que 3 minutes, tant que vous intervenez et que notre invité aussi puisse conclure. La question arrivée le 20 novembre 2016 et qu'il n'y a pas d'élection, qu'est-ce que la population doit vivre? Qu'adviendra-t-il?
Même pour le marché dont on parle, le marché de biens et de services, l'offre internationale, tout cela, on peut le faire parce qu'on l'a fait dans le passé. Et je voudrais vous laisser continuer. N'oubliez pas que lorsque la CENI a publié son calendrier en février, la CENI elle-même estimait que dans 8 mois,
voilà,
on peut faire. Pas la réponse, mais la révision du calendrier, en fait compris la commande.
Voilà. Honorable, je crois que la question de savoir, quand y en a-t-il après le 20 novembre, vous nous écoutez?
Bon. Écoutez, moi, je n'envisage pas cette situation.
Il ne faut pas
envisager cette situation-là.
Oui.
Mais vous, de la presse, vous devez aider ce pays. Il ne faut pas partir de l'hypothèse qu'il n'est pas possible d'organiser les élections présidentielles.
Voilà, merci.
Au mois de novembre.
Merci beaucoup. C'est un grand plaisir pour nous de vous avoir, par rapport à cette thématique. Merci beaucoup. Alors, Bénard, on a appelé à plus tard. C'est Bénard, vous êtes avec nous? Bénard, vous êtes à Kinshasa, vous êtes avec nous?
Voilà, la ligne pose problème. Nous revenons à vous, professeur Bob Kabamba. Voilà, il y a même ceux qui ne sont pas invités. Voilà, c'est ta parole aux auditeurs.
Tout à fait.
Voilà, alors, quelle est votre réaction?
D'abord, je voudrais réinsister sur le fait qu'il n'a jamais été dit que les gens ne voulaient pas des élections. Justement, les gens veulent des élections. Et les gens veulent des élections, c'est pour ça qu'il y a toutes ces questions. Ce n'est pas, je voudrais répondre dans le cas de tout là. Justement, c'est ça la question. Les gens veulent les élections. On n'a jamais dit que les gens ne veulent pas les élections. Sinon, on n'aurait pas autant d'auditeurs qui interviendraient sur le sujet. La question qui était posée, c'est par rapport au délai constitutionnel. C'est-à-dire avant le mois de novembre. C'est cette question-là que j'ai dit. Je ne veux pas me répéter. Clairement, que techniquement, etc., il est impossible de pouvoir le faire dans ce délai-là. Dans le délai constitutionnel tel que toutes choses étant égales par ailleurs. C'est simplement ça. Mais les gens veulent des élections.
Même avec la portion magique, la formule magique,
tout, quelle que soit la formule, tout le monde veut d'élections. Ça, c'est clairement établi et que ce soit écrit, et tout le monde le sait, il n'y a pas d'ambiguïté, vous pouvez aller dans n'importe où. Et la preuve de l'émission aujourd'hui, autant d'auditeurs qui interviennent sur ces questions-là, parce que tout le monde veut effectivement
ces élections. Là, on sait qu'en allant au dialogue, c'est pour en sortir avec une transition.
Pas nécessairement. C'est là où il y a toute la confusion. Il y a, vraiment, c'est ça qui fait vraiment la confusion. C'est pour ça que je demande véritablement aux autorités de pouvoir mettre fin à la cacophonie, mettre fin à ce flou qui se répercute au niveau de l'opinion publique. Et quand ça se répercute au niveau de l'opinion publique, et vous savez très bien comment l'opinion publique est, au moindre rumeur peut réagir d'une façon ou d'une autre.
Le message des soucis au dialogue, c'est comme si c'est une panacée. Et la population qui parle, il faut dialoguer. Celui qui ne veut pas les dialogues, il n'y aura rien, il y aura des chaos.
Oui, voilà. Donc, on est en train, de mon point de vue, de pouvoir oublier que nous pouvons aller dans un contexte de violence lié aux élections, comme on en connaît dans beaucoup de pays, que ce soit au Burundi, que ce soit ailleurs, etc., où on a vraiment le contexte électoral produit de la violence. Malheureusement, au lieu d'aller dans un sens d'éviter cela, l'impression que ça donne, c'est que tout doucement, progressivement, on est en train d'aller vers cette direction. Et que, en espérant de manière très claire que les autorités pourront fixer l'opinion sur ces questions, soit dialogue, soit élection, soit tout ce qu'on peut imaginer.
Professeur, on va encore prendre date avec vous par rapport à d'autres thématiques. En tout cas, si vous êtes disponible, on sait que tout le temps vous êtes parti, vous êtes entré des avions, et surtout vous avez des charges au niveau des centres d'études politologiques à l'Afrique centrale. Mais les auditeurs, les paroles aux auditeurs, vont en tout cas vous clamer très prochainement, et surtout que nous entrons dans une année, nous sommes dans une année électorale, il y a pas mal de questions politiques qui viendraient quand même qu'on puisse vous associer dans les débats même prochainement. Merci beaucoup, professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège et directeur du Centre d'études politologiques à l'Afrique centrale, d'avoir accepté notre invitation. Et nous disons également merci à Paul Badianiam qui a assuré la mise en onde de ce programme, réalisé par Pierre Lamégi et Julie Pesa Bongonda, une émission qui vous a été coordonnée et présentée par J.R. Lungembo sous la supervision de Martin Sebujalier. Nous allons nous retrouver demain dans un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Okapi.